Beer is a natural beer, and this is a problem for us.
Comme
we don't like to have the beer sit at the port or at the checkpoint.
C'est une bière naturelle, et donc si elle reste trop longtemps coincée dans un port ou dans un checkpoint, c'est pas bon.
A few hours in the sunlight, it will spoil.
Ah oui, si ça reste en plein soleil, évidemment, la bière risque d'être abîmée. Oui.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver pour vous emmener toute cette semaine en Cisjordanie. La Cisjordanie, on va le rappeler quand même, c'est cette région entre Israël et la Jordanie, une région grande comme le canton de Berne pour une population d'environ 2 millions d'habitants, dont presque un quart sont des colons israéliens. Région autonome dont le statut, tout comme le tracé des frontières, reste sujet à discussion, à débat, à conflit entre Israël et l'autorité palestinienne. Région sensible, très sensible, marquée par deux intifadas, marquée par les incursions israéliennes et par les règlements de compte inter-palestiniens. Région bouclée aussi régulièrement par l'armée israélienne, paralysant du coup une activité économique basée de plus en plus sur l'industrie et les services, aggravant encore un quotidien déjà très précaire de ses habitants. Et c'est dans cette région-là que nous partons, que vous allez nous emmener avec vos reportages toute cette semaine. Anne Brunswick, bonjour.
Bonjour Cyril.
Merci d'être avec nous en direct et en duplex de Paris. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez déjà réalisé plusieurs carnets de route pour nous. C'était en Russie, dont vous êtes une spécialiste. Là, c'est en Cisjordanie que vous nous emmenez, une région que vous connaissez aussi très bien, puisque vous y avez passé plusieurs mois, notamment en 2003-2004. Là, vous avez passé 4 mois. Ensuite, vous y êtes retourné, je crois, 4 fois en tout. Séjours qui ont donné un livre, Bienvenue en Palestine, paru aux éditions Actes Sud, qui a d'ailleurs reçu un prix, le prix RFI Témoin du Monde. Plusieurs voyages, donc des reportages, un livre, vous le dites dans votre livre, Bienvenue en Palestine, pour entendre l'autre version de notre histoire.
Oui, comment vous dire, je connais bien Israël parce que ma grand-mère y vivait. Ma grand-mère était une sioniste très très convaincue, très ardente, qui travaillait d'ailleurs à la radio israélienne, à Kol Israël, dans la section française. Et donc depuis mon enfance, depuis l'âge de 14 ans, j'ai été très régulièrement voir ma grand-mère et puis voir les autres cousins. Voilà, et c'est vrai qu'à la fin des années 2000, je voyais bien que le processus d'Oslo ne menait à rien, que le conflit s'aggravait avec le déclenchement de la deuxième intifada. J'ai eu envie de comprendre, de savoir pourquoi la paix ne marchait pas. Et il m'a semblé que ce que je pouvais entendre et apprendre d'ici ne me convainquait pas, ne me suffisait pas. Et donc je suis allée là-bas. J'ai tenu à aller là-bas absolument en parfaite indépendance. Je voulais pas y aller pour aider les Palestiniens parce que je savais pas du tout s'ils avaient besoin de mon aide, ni si moi-même j'avais envie de les aider. J'avais envie de connaître leur version de cette histoire dans laquelle j'ai grandi, puisque mes parents aussi étaient sionistes et moi-même j'ai bien failli naître en Israël.
Comment est-ce que votre grand-mère parlait des Palestiniens?
D'abord, elle ne parlait pas des Palestiniens, elle parlait des Arabes. Mmh. Elle ne reconnaissait pas les Palestiniens et elle n'en disait pas grand bien. Elle pensait beaucoup de mal de Nasser et elle pensait beaucoup de mal des Palestiniens. Elle pensait simplement que leur place était d'aller ailleurs et de laisser la place aux Juifs.
Et ce contexte familial, cette histoire familiale que vous êtes allé en Palestine, vous l'avez racontée aux Palestiniens?
Oui, bien sûr. Oui. J'ai rencontré beaucoup d'abord d'intellectuels palestiniens qui étaient curieux de comprendre ma démarche. Et je pouvais pas entendre leur version de l'histoire sans en même temps raconter la mienne, oui, bien sûr.
Et comment est-ce qu'ils réagissaient? Est-ce qu'ils étaient surpris? Est-ce qu'ils étaient parfois fâchés?
Pas du tout. Ils ont réagi d'abord avec une parfaite ouverture. Moi, j'aurais pu imaginer que ça allait les ennuyer de raconter pour la énième fois cette histoire qu'ils connaissent trop bien. Et non, ils ont été très, très ouverts, très disponibles à mon égard. on a eu des échanges intéressants. Il y avait des moments où j'étais d'accord avec eux, d'autres où je restais sur mes positions. Jamais personne ne m'a demandé en Palestine de contrôler ce que j'allais écrire, de relire ma copie. J'ai bénéficié d'une confiance extraordinaire. Et puis aussi, moi, je ne connaissais pas les conditions de vie réelles. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sous le couvre-feu? Et heureusement, moi, je louais un petit appartement dans le centre de Ramallah. Heureusement que mes voisins et surtout mes voisines m'ont prise en charge et m'ont appris à vivre et à faire face aux conditions telles qu'elles sont là-bas. Voilà. Donc ça, c'était au cours de l'hiver 2003-2004. Mm-hmm. J'ai passé là 4 mois. Au départ, je ne savais pas que je pourrais faire un livre parce que je ne savais pas justement du tout comment on allait m'accueillir et puis aussi comment j'allais réagir. Et c'est petit à petit, en écrivant des chroniques semaine après semaine, que le livre a pris forme.
Ça s'appelle d'ailleurs « Chronique d'une saison à Ramallah ». Bienvenue en Palestine. Vous y êtes retourné pour nous. Cette fois, c'était à la période de Noël. C'était donc juste avant le déclenchement de l'opération israélienne à Gaza que vous avez vécu de l'autre côté, du côté cisjordanien.
Absolument. Quand je suis arrivée en Cisjordanie, là, juste avant Noël, c'était le 23 décembre. Bon, on savait qu'il y avait de la tension autour de Gaza, mais personne ne s'attendait à une opération de cette ampleur et de cette violence. Et puis elle a commencé le 27 décembre. Et alors, à ce moment-là, évidemment, tout le monde était fixé devant la télévision et on ne parlait plus que de ça. Ouais.
On aura d'ailleurs des échos quelques semaines après de la manière dont les choses se sont vécues en Cisjordanie à travers vos reportages. Et puis aujourd'hui, en seconde partie d'émission, d'habitude on réserve ça pour le vendredi, mais là on a décidé qu'on le ferait le lundi. On prendra des nouvelles toutes fraîches de cette région. On le sait, il y a des élections demain en Israël. On verra comment cette période préélectorale, cette fin de conflit et la vie des gens est vécue avec Benjamin Barthes, qui est le correspondant pour la RSR en Palestine depuis 2002. Il travaille également pour Le Monde depuis 2006. Et puis on sera aussi en direct par téléphone avec Aude Markovitch, qui elle est correspondante en Israël à Tel Aviv. Nous parlerons de ce qui préoccupe Palestiniens et Israéliens ces jours. Ce sera après le premier feuillet de votre carnet de route, Anne Brunswick. On va partir aujourd'hui dans la ville de Taïbé. On est à 30 km au nord-est de Jérusalem. À quoi ça ressemble, Taïbé?
Oh, ville, c'est un bien grand mot, c'est un village de 1200 habitants qui est situé dans les collines de Cisjordanie. Ce sont des collines pierreuses, hein, avec des oliviers en contrebas, d'ailleurs les oliviers qui font un peu vivre le village. Et puis tout autour, sur les collines avoisinantes, on aperçoit partout des colonies juives. Sinon, c'est un petit village. Alors, l'architecture est très homogène dans toute la Palestine et aussi en Israël. C'est toujours des façades de pierre blanche. Et que ce soit dans un petit village ou dans une ville, en fait, les habitations ont un peu la même allure. Mm-hmm. Voilà, c'était un petit village qui dormait, à vrai dire. J'y suis allée le 24 décembre, donc la veille de Noël. Et les gens étaient en train de préparer les fêtes de Noël, tout simplement.
Et là, on découvre tout de suite une première rencontre.
My name is Nadim Khoury.
Nadim Khoury.
I'm the owner and founder of Taiba Brewing Company.
The founder as well?
Yes. Oh. I believe I made history of Palestine.
Yes.
To make the first Palestinian beer company.
Voilà, donc il dit, je suis le patron et le fondateur de cette entreprise. Et j'ai marqué l'histoire de la Palestine en créant cette entreprise.
You mean before you, there was no beer here in Taipei?
There was no beer in Palestine, not just in Taipei.
Il n'y avait pas seulement de la bière, il n'y avait pas de bière. À Taïbé, il n'y avait pas de bière du tout en Palestine.
We started in August 1st, 1995.
Donc, on a commencé le 1er août 1995.
After the Oslo.
Après les accords d'Oslo, cette entreprise est née.
Me and my brother and my father, the three of us.
Voilà, c'est une entreprise familiale avec lui, son frère et son père. So the family's name is
Khoury.
Khoury.
Khoury means priest in Arabic.
Khoury, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde arabe qui s'appellent Khoury, ça veut dire le prêtre, tout simplement, monsieur le prêtre.
Anna, we have a shipment going to Japan.
Ah, il y a...
This shipment we just package. We're exporting to Japan.
Donc on est en train de préparer un envoi important vers le Japon.
Voilà. Everything is digital, computerized.
Alors ici, tout est numérisé. On est dans la brasserie, proprement dit, oui.
And then we have, this is our etiquette. And the way we design the etiquette, this is the brewery on the hills of Taipei with the sunrise.
Alors sur l'étiquette, on peut voir les collines qui sont autour de nous, ici à Taipei, avec le soleil levant. Hein.
The mash tun and the kettle and the aging tank and a mug of beer, uh-huh. Even the stairs. This is the stairs.
Voilà, on voit ici, mais c'est présenté de manière beaucoup plus stylisée sur l'étiquette, mais on voit l'échelle qui grimpe jusqu'à la cuve.
Belgian malt and French malt and Bavarian hops on the bottom.
Voilà, le malt français, le malt belge et puis les feuilles qui viennent de Bavière, ouais.
And we named it Taibe because I'm proud of my hometown village. Taibe in Arabic means delicious, Taib.
Taibe, ça veut dire en arabe délicieux, très très bon. Et donc Taibe beer, c'est à la fois la bière de Taibe et puis c'est l'excellente bière. Et alors ici, on est entouré de grandes cuves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuves.
It's about 1,000 liters.
Il y a à peu près 1000 litres dans chacune de ces cuves.
Voilà. We ferment the beer here and then we filter it with this filter and we send it to these tanks. And from here we do the packaging. We do the packaging either in draft or in bottles.
Voilà, il y a deux formes d'emballage. Soit on le fait pour la bière pression, donc dans des tonneaux, soit directement en bouteille. Ah, voilà. On le met en route le chargement de bouteille.
The bottle gets inside, gets sanitized. Then drain down, and then it will be shaked, ready to go to the other side for packaging.
Voilà. Donc ici les bouteilles sont nettoyées, chargées, et après elles passent de l'autre côté. D'accord. Thank you.
And then the next step is filling these empty bottles with beer.
Bon, après.
At this station here, voilà. You can see some. Broken bottles, voilà.
Ici, il y a un peu de verre cassé autour de nous, mais c'est là qu'on.
This is the capper where the bottles are capped here. Mm-hmm. After filling, capping.
Ici, elles reçoivent leur capsule.
And then labeling here at putting the etiquette.
Ici, on met les étiquettes, oui.
And then after we take them by hand, put them in the box. Uh-huh. And the machine will seam the box from the top and the bottom. Mm-hmm.
Et là, c'est déjà la machine à emballer les cartons. Donc tout ça est très moderne. Il y a 15 ouvriers qui travaillent ici. From your family and salary.
Excluding the family members.
Ah, sans compter les membres de la famille, 15 personnes. And the family.
About 5 family members.
Plus 5 membres de la famille.
Ah, it's growing rapidly increase, yes.
Yes. Donc la compagnie, cette entreprise progresse rapidement, elle se développe.
This year we reach 6,000 hectolitres.
Donc cette année, l'année 2008, ils ont atteint 6,000 hectolitres, voilà.
We started with 500 hectolitres.
Voilà. Ça a débuté à 500 et maintenant on est à 6,000. Donc on est vraiment maintenant dans une PME. Carrément.
Where did you learn this profession of making beer?
In America.
Donc monsieur a appris son métier en Amérique.
How can everybody you manage? Drinks alcohol.
Yes.
Alcohol, the Christians in this population is only 1% of the population.
Alors les chrétiens dans la population de la Palestine aujourd'hui représentent que 1%, mais il y a beaucoup d'autres gens qui boivent de l'alcool.
And the amount of alcohol been drank cannot be drank by 1%.
Et si on est raisonnable, on comprend bien que tout l'alcool qui est bu ici n'est pas bu que par des chrétiens.
So it must be somebody's doing a good job at it. Everybody's drinking beer.
Bon, donc en fait la bière Taibe, elle est bu partout.
لأنه أنا مفكفك الهذول بضربهم بعدين خرب الدنيا. 10% for export.
Donc 10% de cette bière est exportée et le reste est destiné à la consommation locale. Oh, okay.
Go ahead.
How are you doing with Israelis?
Comment ça se passe avec les Israéliens?
They're giving us hard time to sell our beer in Israel and export.
Voilà, elle est vendue en Israël, mais c'est vrai qu'il y a des obstacles et aussi il y a des obstacles parfois à l'exportation. You have problems all the time or sometimes when?
Most of the time.
La plupart du temps, il y a des. Can you just say what kind of problems?
For instance, sending these goods to, we don't have our borders. We're under occupation. Mm-hmm. How could you send it? You need to check it. Inspect it, take it off the truck, put it back. Permits through the Israeli. I have a container already waiting in the airport for room for at the port for raw materials.
Donc les difficultés viennent du fait qu'évidemment, comme on est sous occupation, chaque chargement doit être vérifié par les Israéliens, doit avoir un visa d'inspection et que les chargements restent souvent très longtemps dans les ports avant de pouvoir être expédiés.
You have to pay for that a lot. Or?
For sure, yeah. It's an extra cost.
Il y a des coûts donc du fait qu'on passe par les Israéliens.
Mm-hmm. There is no Palestinian ships. There is no borders. Yeah. There is no airport for Palestine, and there is no port.
Évidemment,
we have to use their airport, and we have to use their port.
Donc évidemment, il est obligé d'utiliser les ports et les aéroports israéliens pour expédier sa marchandise.
Yeah, it's no good because our beer is a natural beer, and this is a problem for us.
Comme
we don't like to have the beer sit at the port or at the checkpoint.
C'est une bière naturelle, et donc si elle reste trop longtemps coincée dans un port ou dans un checkpoint, c'est pas bon.
Few hours in the sunlight, it will be spoiled.
Ah, si ça reste en plein soleil, évidemment, la bière risque d'être abîmée, oui. Thank you.
And Merry Christmas to everybody.
Merry Christmas to you.
Merry Christmas. Goodbye.
Le chargement qui part au Japon. Ça donne envie.
Et alors, dehors, on se retrouve face aux collines de Taïbé et il y a un vent terrible aujourd'hui, un vent glacial. Et les collines sont désertiques, mais tout en haut de la colline d'en face, on voit des petites caravanes. Et ça, ces caravanes-là, c'est très typique des colonies sauvages israéliennes, c'est-à-dire c'est le début d'une colonie qui ne s'est pas encore développée mais qui ne va pas tarder à le faire. On les reconnaît bien, ces colonies, parce qu'elles occupent les hauts des collines. On en voit une autre là-bas aussi, une colonie juive. Ça se reconnaît au fait qu'il y a une énorme antenne, une tour de télécommunication, et c'est en même temps qu'il y a des habitations, il y a aussi tout un équipement militaire qui permet de surveiller les villages palestiniens qui sont en contrebas. Et puis devant nous, on a quelques oliviers quand même qui ont bien du mérite à pousser au milieu de toute cette caillasse. Devant l'église qui vient d'être ouverte, sur le portail, il y a écrit en arabe et en latin « Domus Dei Porta Coeli »« Maison de Dieu, porte du ciel ». C'est écrit aussi en arabe. Voilà. Et alors là, quand on entre, il fait un peu meilleur quand même à l'abri. Alors c'est une église plutôt moderne. Et au centre de l'église, on a construit une vraie crèche. C'est très, très kitsch, très naïf, mais c'est joli. Voilà. Tout ça en carton pâte. En Italie aussi, on a tout à fait le même genre de crèche.
La crèche de l'église de Taïbé, village palestinien de Cisjordanie. On va rappeler, Anne Brasvik, que vous y êtes en période de Noël. Est-ce qu'il y a une atmosphère particulière à Taïbé, à la période de Noël?
Il y a quelque chose de particulier à Taïbé, c'est que c'est un village entièrement chrétien. Je crois que c'est d'ailleurs le seul en Palestine, en tout cas c'est ce que m'a dit le curé, qui est entièrement chrétien. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que sinon normalement, il y a pas mal, enfin il y a des chrétiens à Ramallah, à Bethléem évidemment, mais ils sont aujourd'hui minoritaires, alors qu'à Taïbé, il n'y a que...
Il y a des décorations dans les rues,
oui,
des Pères Noël...
il y a effectivement, j'ai été accueillie par un Père Noël dans la, devant l'église, et puis il y avait des petites décorations. D'ailleurs, même sur la place centrale de Ramallah, il y avait un sapin de Noël, et puis aussi quand on va à l'université de Birzeit, on voit des étudiants qui sont habillés en Père Noël. Non, on fête Noël. D'ailleurs, même les musulmans s'associent aux fêtes de Noël. Mmh. En Palestine, ça n'a rien d'exceptionnel.
Alors, vous nous parlez du curé de cette paroisse, on va le rencontrer. Vous l'avez rencontré. Comment s'appelle-t-il et qui est-il?
Alors, le père Raed est un homme extrêmement, comment dire, très dynamique. C'est un peu fluet physiquement, mais alors il est une espèce de bombe d'énergie. Il est plein d'initiatives. Il a la quarantaine. Il a beaucoup d'expérience. Ça fait pas très longtemps qu'il a été nommé à Taïbé. Avant, il travaillait pour le patriarcat de Jérusalem. Et c'est un homme aussi qui tenait un site internet et qui est un grand, grand militant. Alors lui, c'est un militant, c'est un patriote palestinien. Il a beaucoup d'idées politiques, hein, et très ferme sur les conditions de la paix. Mais en même temps, bah, vous allez l'entendre, c'est aussi un apôtre très convaincu de la non-violence.
Le père Raed, curé de Taïbé.
Ici à Taïbé, c'est une paroisse comme toutes les autres paroisses, comme vous avez dit. Mais elle est très importante. Tout d'abord parce qu'il a été mentionné dans la Bible avec le nom de Ephraïm. 6 fois dans l'Ancien Testament et 1 seule fois dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 54. C'était après la résurrection de Lazare, nous lisons que Jésus ne pouvait pas circuler ouvertement à Jérusalem. Il est allé dans une ville appelée Ephraïm, au bord du désert, où il séjourna avec ses disciples. Donc Jésus est venu ici avant sa passion pour se reposer, pour se préparer à sa mort, pour convaincre les disciples qu'il allait mourir, pour se préparer à l'accomplissement du mystère de la rédemption. C'est pourquoi les gens sont très fiers de dire qu'ils étaient évangélisés par Jésus-Christ lui-même et ses disciples. En effet, aujourd'hui, Taïbé, Ephraïm est resté le seul et l'unique et le dernier village entièrement chrétien en Terre Sainte. Donc, aujourd'hui, la population de ce petit village est peu nombreuse. Il y a 1300 personnes divisées en 3 communautés. Il y a l'église grecque orthodoxe, l'église grecque catholique de rite melkite, et nous sommes catholiques de rite latin. Grâce à Dieu que les rapports sont bons. On a un comité de prêtres, on se voit pour coordonner quelques activités et même nous avons unifié la date de la célébration de Noël et de Pâques ensemble depuis 20 ans. Ça veut dire que avec un compromis très simple, c'est-à-dire que les orthodoxes célèbrent Noël avec nous le 25 décembre et nous célébrons Pâques avec eux selon le calendrier oriental. Dans notre école, nous avons 450 élèves, presque tous les enfants du village sans discrimination, y compris un tiers qui sont musulmans, qui proviennent des villages voisins. Et nous tenons beaucoup à avoir au moins un tiers des enfants musulmans dans notre village et dans notre école. Pourquoi? Parce que nous croyons que s'ils étudient ensemble quand ils sont petits, ils peuvent vivre ensemble et travailler ensemble dans l'avenir quand ils seront grands. C'est une manière d'éducation à la coexistence pacifique dans une société mixte comme la nôtre où nous vivons ensemble depuis 14 siècles. Dans notre paroisse aussi, nous avons un centre médical dirigé par Caritas Jérusalem que nous avons aussi développé depuis 4 ans. Pourquoi? Parce que j'ai noté que les gens ne pouvaient pas facilement aller dans les hôpitaux à Ramallah à cause de tous ces barrages militaires. Ils ne peuvent plus du tout aller à Jérusalem à cause de ce fameux mur de séparation. Même j'avais noté depuis 6 ans que nous avons ce que j'ai appelé la phobie de l'accouchement. On a eu presque 76 cas d'accouchement sur les barrages militaires. Et dans les territoires occupés, le plus important, ce n'est pas la personne humaine. Malheureusement, c'est la carte d'identité que vous avez. C'est pourquoi on a développé le centre et nous avons une chambre de radiologie, de physiothérapie, d'urgence et d'accouchement. Nous avons un cabinet dentaire, laboratoire, service maternité, service pour les enfants. Moi, personnellement,
et je suis un petit spécialiste de non-violence. Parce que par éducation, j'ai écrit ma thèse de doctorat sur la violence et la non-violence dans la pensée et la pratique musulmane. Pourquoi ? Parce que je voulais découvrir les semences de la paix dans l'islam et dans le Coran. Et c'est pourquoi nous avons essayé de lancer plusieurs initiatives pour la paix. Par exemple, vous allez voir que nous avons une chorale d'enfants, 40 enfants de 5 à 15 ans qui chantent très bien, pas comme au Vatican, mais presque, et peut-être mieux. Alors avec cette chorale, nous avons lancé l'idée que j'ai appelée la musique pour la paix, Music for Peace. En effet, avec un artiste français qui a voulu mettre des chansons pour la paix de la tradition juive, tradition chrétienne, tradition musulmane, nous avons enregistré un CD qui s'appelle D'une seule voix. Et après le succès de ce CD en France, on a fait une tournée de concerts dans 14 villes françaises avec tous les artistes chrétiens, musulmans et juifs, palestiniens et israéliens, 110 ensemble, pendant tout le mois de mai l'année dernière. Je sais très bien que c'est rien du tout, c'est comme une petite goutte d'eau dans l'océan de ce conflit, mais je crois qu'il faut toujours encourager n'importe quel effort, n'importe quel initiative qui aide les gens à se rencontrer, à travailler ensemble, espérant qu'un jour ils pourront faire la paix ensemble. Deuxième initiative, je peux vous mentionner que nous avons lancé l'initiative des produits pour la paix. Le produit principal à Taïbé, ce n'est pas seulement la bière, mais aussi l'huile d'olive. Et surtout l'huile d'olive parce que c'est la source de revenus principale du village, de tous les villageois. Nous avons 30 000 oliviers autour du village. Alors j'ai dit, est-ce qu'on peut transformer ce produit en un message de paix ? Nous avons essayé de trouver un marché en France, dans le secteur du commerce équitable. Et en effet, depuis 4 ans, nous vendons toute l'huile de Taïbé en 2500 supermarchés en France, avec une compagnie qui s'appelle Alter Eco. On a dû même développer le produit pour être au standard européen, et j'ai dû même acheter et installer dans le village un pressoir d'olive moderne qui a été donné à nous par la conférence épiscopale italienne. Après, on a dû négocier avec l'Europe, la communauté européenne, pour obtenir l'exemption de taxes, parce qu'on devait payer 1,5 € par chaque litre qui entrait en Europe. Alors, on a fait les négociations avec la communauté européenne, et depuis 3 ans, 2005, nous avons obtenu l'exemption de taxes pour 3000 tonnes d'huile d'olive palestinienne qui peut entrer en Europe sans payer les taxes. Mais à la fin, je me suis dit, est-ce qu'on peut transformer ce produit en un message de paix ? Ici est née une idée très simple et symbolique que j'ai appelée les lampes de la paix en Terre Sainte. Elle est basée sur l'idée suivante, que ces pauvres Israéliens et Palestiniens ont utilisé toutes les formes de violence et de non-violence pour résoudre ce conflit. Après un siècle, nous sommes restés sous zéro. Maintenant, je pense que nous sommes à 20 degrés sous zéro. Donc je me suis dit, il faut s'adresser au ciel, demander cette grâce de la paix pour la Terre Sainte du Seigneur lui-même. Et on a proposé, en effet, de mettre une lampe pour la paix dans toutes les églises du monde, avec deux conditions. La première, qu'ils prient pour la paix en Terre Sainte. Et la deuxième, qu'ils utilisent l'huile de la Terre Sainte pour l'allumer. Ce n'est pas seulement pour vendre l'huile, c'est-à-dire le produit, mais pour transformer l'huile en un message de paix. Le rêve est de mettre 100 000 lampes dans 100 000 églises en 5 ans dans les 5 continents. Et je me suis dit, si on peut réunir tout ce monde à prier pour la paix en Terre Sainte, donc le bon Dieu n'aura plus de choix, il finira à nous écouter. C'est-à-dire, nous, on fait pression sur le ciel. Oui. Et pour réaliser ce rêve, nous avons dans le village des ateliers. J'ai restauré le vieux bâtiment du pressoir d'olive traditionnel. Et nous avons installé des ateliers où nous fabriquons le bois d'olive, le céramique, le bougie, le médaille, le savon et d'autres produits. On donne du travail à 26 jeunes avec un salaire mensuel depuis 4 ans.
Voilà, Ya Rab As-Salami, c'est le cœur des enfants de Taïbé dont nous parlait le père Raed, curé de Taïbé. Anne Brunswick, alors on ne sait pas s'il sera entendu par Dieu, le père Raed, mais est-ce qu'il est entendu par ses paroissiens? Est-ce que son message de non-violence est entendu et suivi par les gens de Taïbé?
Ça, je ne pourrais pas vous dire s'il y a plus ou moins de membres des brigades armées et des mouvements militaires ou paramilitaires à Taïbé que dans d'autres endroits de Palestine. Vraiment, je suis incapable de vous le dire, mais je pense qu'il a une vraie autorité morale, cet homme-là. Je dois vous dire aussi une chose, c'est que vous l'avez entendu parler dans un français tout à fait formidable, mais qui parle aussi bien l'italien et un tas d'autres langues. Et il est vraiment, je crois qu'il a vraiment une grande autorité morale là-bas. Oui.
Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage?
Il a aussi de l'humour, hein. Vous avez vu comment il parle de faire pression sur le ciel. Moi, je ne suis pas croyante, mais je dois dire que des hommes comme ça, ils ont une force de conviction telle qu'on a de toute façon envie de les écouter. Et pourquoi pas qu'ils soient entendus, oui.
Y compris au ciel. Vous restez avec nous, Anne Brunswick, en direct de Paris, parce que là, on va prendre des nouvelles de la région que vous avez traversée pour nous et dont on va entendre les reportages tout au long de la semaine. C'est vrai qu'on garde ça en général pour le vendredi, de prendre des nouvelles de la région. Mais là, on s'est dit que c'était important d'avoir un lien avec l'actualité de cette région dès le premier jour, dès le lundi. Et on va le faire avec ceux qui sont tous les jours responsables de nous informer ici à la Radio Suisse Romande, vous, auditeurs de la Radio Suisse Romande sur cette région. Ce sont nos correspondants sur place et tout d'abord notre correspondante en Israël, Aude Markovitch, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Tel Aviv. Où est-ce que vous êtes précisément?
Je suis un peu au sud de Tel Aviv, pas très loin de la mer, dans une petite rue populaire avec beaucoup de magasins de tissus autour de moi.
Et puis notre correspondant en Palestine, c'est Benjamin Barthes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Ramallah, où précisément?
En face, exactement en face du bureau de la présidence palestinienne qu'on appelle la Mokata à Ramallah. C'est un vieux bâtiment qui a été copieusement détruit durant les nombreuses années de l'intifada, qui a été reconstruit ici et là, et où il y a eu il y a quelques heures juste une manifestation en l'honneur ou en faveur du président Abou Mazen et de son mouvement le Fatah.
Mmh. Alors il y a une cinquantaine de kilomètres qui vous séparent, qui séparent Ramallah de Tel Aviv, qui vous séparent Aude Markovitch et vous, Benjamin Barthes, et pourtant deux mondes vous séparent, un mur vous sépare, deux mondes en tension, parfois en guerre. Est-ce que vous avez l'occasion de vous rencontrer et de vous parler?
En fait, c'est effectivement deux mondes qui ne se voient pas, qui ne se parlent pas. Nous, en tant que journalistes, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que les Israéliens ne vont pratiquement jamais dans les territoires palestiniens. Il y a même des territoires palestiniens. Enfin, Gaza est interdit aux Israéliens. Et effectivement, il y a une très petite connaissance de ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Il y a aussi peu de journalistes israéliens qui vont couvrir les sujets côté palestinien. Et je crois, il me semble, Benjamin, que c'est aussi le cas dans l'autre sens et pour cause.
Oui, c'est effectivement le cas. Peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a, en tout cas, il y avait du côté palestinien une connaissance réelle d'Israël à l'époque où des milliers, des dizaines de milliers de Palestiniens aller travailler en Israël, ça c'était pendant le processus de paix. Au fur et à mesure du processus de paix, surtout de son enlisement, le nombre des permis distribués à ces Palestiniens pour aller en Israël a baissé, jusqu'au point où actuellement il y a juste une poignée de réélus qui disposent de ce fameux permis qui leur permet d'aller en Israël, de travailler là-bas et donc de connaître une certaine réalité israélienne. Inversement, il y a très peu, comme le disait Aude, très peu d'Israéliens qui rentrent dans les territoires palestiniens. Ceci dit, il est toujours possible, et ça fait partie de ces zones grises de la situation israélo-palestinienne qu'on connaît mal, dont on parle assez peu souvent, mais il est toujours possible de rentrer dans les villes palestiniennes pour les Israéliens qui le veulent, qui disposent de quelques contacts dans ces villes et qui ont envie de garder une certaine proximité avec des amis palestiniens qu'ils ont pu fréquenter dans le passé. Et alors, notamment à Ramallah, il est toujours possible de rentrer. Il s'agit juste de connaître le bon chemin, mais en utilisant cet itinéraire, on évite les checkpoints, on évite les contrôles de l'armée et on peut rentrer dans la ville palestinienne de Ramallah.
Vous-même, vous deux, vous avez eu l'occasion de vous rencontrer. Est-ce que vous avez l'occasion de vous parler pour échanger sur la manière dont vous allez traiter de l'actualité de cette région?
Oui, mais moi, il y a juste un problème de timing, c'est qu'en fait, moi, je suis arrivée comme correspondante il y a très peu de temps et qu'on a été pris par l'actualité de la guerre de Gaza très rapidement. En tout cas, moi, j'ai eu peu de temps pour m'installer et faire mes premiers contacts et mes premières visites de courtoisie. Mais on s'est parlé à plusieurs reprises, on s'est déjà rencontré et on a l'intention de le faire dans l'avenir.
Mmh. Benjamin, vous avez l'occasion de temps en temps d'aller de l'autre côté, d'aller à Tel Aviv ou d'aller à Jérusalem-Ouest, par exemple?
Oui, bien sûr, je le fais très souvent pour mon travail d'une part, parce que je collabore avec des médias français qui me demandent de couvrir l'actualité israélienne, donc. Dans ce cadre-là, je vais régulièrement en Israël. J'étais, par exemple, hier à Nazareth-Illit, qui est la ville juive construite en surplomb de Nazareth, la ville arabe, elle. Et j'ai fait un reportage sur place sur le mouvement Israël Bétenou, qui va être l'une des grandes surprises, si l'on en croit les sondages des élections législatives demain en Israël. Et puis, j'y vais aussi pour mon plaisir. C'est vrai que le quotidien peut être très éprouvant, peut être très épuisant dans les territoires occupés. Et pour se relaxer, et puis également pour avoir le contre-champ, je dirais, pour avoir aussi, pour garder le contact avec ce qu'est Israël, c'est, je crois, utile en tant que correspondant dans les territoires occupés d'aller en Israël, de voir ce qui s'y passe, de voir ce qu'on y dit, de voir comment on y vit. Et donc, j'y vais très régulièrement et ça m'intéresse toujours beaucoup.
Pour vous, Aude?
Justement, ce qu'il faut ajouter, c'est que je pense que c'est très important de connaître les deux côtés. En tout cas, moi, ça fait partie aussi des objectifs. Il faut aussi voir, pour que les auditeurs se rendent compte, que là d'où on vous parle, c'est des territoires très, très petits. Israël même, ça fait à peu près 20 000 km². Donc la Suisse fait 40 000 km². La Cisjordanie, j'ai regardé, c'est à peu près entre 5 et 6 ou 7 000 km². Donc c'est vraiment des territoires très petits. Et donc les distances sont très courtes. Vous disiez que 50 km nous séparent, mais même tout ça est extrêmement proche. proche et ce qui fait que c'est non seulement indispensable, je pense, de voyager d'un bout à l'autre de tout ce territoire, mais en plus, c'est ce qui fait aussi que le problème en est d'autant plus aigu parce que les gens, quelque part, se marchent sur les pieds ici et vivent un peu les uns sur les autres. Le problème est très proche pour tout le monde, en fait.
Parce qu'il y a aussi, parce qu'il y a les distances sont courtes, mais en même temps il y a des séparations, des barrières, des murs qui sont autant, j'imagine, physiques que psychologiques. Vous avez tous deux couvert l'opération israélienne à Gaza, une opération extrêmement médiatisée qui a suscité, vous le savez, ici en Suisse, mais aussi en France. Vous disiez, Benjamin Barthes, vous travaillez aussi pour Le Monde, donc vous connaissez aussi l'importance et l'impact qu'ont les informations que vous donnez ici en Suisse romande. Est-ce que ça a été difficile pour vous, ce point-là précis de la couverture des opérations israéliennes à Gaza ?
Vous voulez dire, la vraie difficulté qu'on a eue, c'était le fait que Gaza n'était plus accessible aux journalistes à partir du premier moment de la guerre. Et l'autre difficulté, bon, moi je suis descendue dans le sud d'Israël, donc au deuxième jour du début des opérations, donc c'est cette partie qui longe la bande de Gaza, et puis un petit peu plus au nord, dans les villes de Ashkelon, Ashdod, donc on dit qu'il y a à peu près 1 million d'Israéliens qui vivent entre Ashdod, Ashkelon, Sderot, qui est cette ville très connue parce qu'elle a été la cible de beaucoup de tirs de roquettes depuis ces dernières années, et donc toute cette zone-là, toute cette zone sud d'Israël, c'était l'objectif de la guerre, c'est-à-dire on va protéger la population civile qui est sous les tirs de roquettes depuis ces dernières années, et c'est pour ça que l'armée fait la guerre à Gaza. Ça, c'était l'objectif. La première difficulté, en tout cas, bon, moi, je vous le raconte comme je l'ai vécu, c'était, il y avait un stress assez important parce que on se retrouvait dans cette zone qui continuait à être sous le tir des roquettes, donc il y avait tout le temps des alertes, on allait tout le temps dans les abris, donc c'est un stress permanent avec peu de dégâts et très peu de morts en fin de compte, mais avec un stress permanent. Mais la grande difficulté au bout d'un moment, parce que je pense que c'était très important de couvrir cette partie-là, c'est-à-dire le côté israélien et aussi la justification de la guerre côté israélien, donc c'était important d'y être, mais au fil des événements, c'est-à-dire au fil des jours et plus les opérations s'intensifiaient côté Gaza, et plus ça devenait frustrant parce que tout simplement on n'était qu'observateurs de loin de là où se passaient les événements beaucoup plus graves en termes de conséquences humaines, c'est-à-dire 1300 morts à peu près côté palestinien, et qui nous étaient interdits en tant que journalistes et qu'on observait depuis des surplombs qui longeaient la bande de Gaza. Ça c'était la vraie difficulté. Et après aussi, il y avait l'aspect de la population israélienne qui au départ soutenait très très fort cette guerre qu'elle considérait comme légitime pour sa protection contre le Hamas, etc. Et je vous avoue qu'au bout de 3 semaines de justification, je n'avais un peu soupé des justifications de la guerre. Donc c'est vrai que c'était aussi une autre difficulté de se confronter à au côté moral de cette guerre, ou amoral de cette guerre.
Vous, Benjamin Barthes, vous étiez à Ramallah, vous avez eu aussi l'occasion d'aller à Gaza. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce conflit ?
Je crois qu'il y avait des difficultés d'abord d'ordre physique et puis d'ordre psychologique, je dirais, d'une certaine façon. Les difficultés d'ordre physique, c'était, comme Aude l'a dit, d'abord rentrer à Gaza. Donc ça a été impossible pendant longtemps du fait du verrou et du veto israélien, je dirais, le gouvernement israélien, qui verrouillait complètement le terminal de Erez, qui est au nord de la bande de Gaza. Et puis un portier d'un certain moment, quelques jours avant le cessez-le-feu, et puis de façon un peu plus massive dans les jours qui ont suivi le cessez-le-feu, quelques groupes de journalistes ont pu passer, notamment par le terminal de Rafah, qui est côté égyptien, donc au sud de la bande de Gaza. Donc c'est à ce moment-là que moi, j'ai aussitôt pris mes clics et mes claques, et puis je suis parti à toute vitesse. Donc ça voulait dire prendre l'avion à Tel Aviv, atterrir au Caire, dormir au Caire, prendre le taxi du Caire en droite ligne jusqu'à Rafah, c'est-à-dire traverser les, grosso modo, 300 kilomètres du Nord Sinaï. Et puis là, j'ai été bloqué à nouveau, alors cette fois-ci par les autorités égyptiennes, qui pendant 3 jours ont refusé, mordicus, d'ouvrir le terminal de Rafah. Alors on n'a jamais eu véritablement le fin mot de l'histoire, pourquoi ces portes ont été fermées, alors même que quelques heures avant mon arrivée, elles étaient ouvertes, mais soudainement, ça s'est refermé. Il n'y a jamais eu d'explication très nette. Ce que l'on subodore, c'est qu'il y avait à la fois un mélange de pression israélienne, hein, qui n'était pas enchantée à l'idée de voir débarquer toute la presse internationale dans ce territoire qui avait été allègrement bombardé pendant 3 semaines. Et puis, il y avait également du côté égyptien des calculs qui disent qu'en fait, l'Égypte ne voudrait surtout pas se retrouver responsable de la bande de Gaza à partir du moment où Israël fermerait tous ses points de passage et l'Égypte se retrouverait acculée à devoir ouvrir le point de passage de Rafah pour à la fois faire passer les journalistes, mais également les vivres, l'alimentation, etc. Donc ça, c'était les difficultés d'ordre physique, je dirais. Après, il y avait également, effectivement, un côté très très oppressant, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur un terrain de guerre qui a été bombardé, qui a été pilonné, qui a été laminé dans certains endroits, avec des quartiers complètement rasés. C'est quelque chose qu'on avait peu vu dans les images pendant la guerre même, parce que les journalistes n'avaient pas accès à ces endroits. Mais il y a des quartiers de Gaza, de la périphérie de Gaza, qui ont été complètement rasés, avec sur un rayon de 2-3 kilomètres, des pâtés de maisons écrasées partout. Et c'est vrai que bon, recueillir des témoignages, c'est pas évident dans des situations pareilles, parce que c'est très éprouvant, c'est très épuisant psychologiquement. Alors ce qui aide, c'est que les Palestiniens ont une attitude qui m'a toujours marqué, que j'ai toujours remarqué au fur et à mesure de mon expérience dans la région, qui est une très grande attention à l'interlocuteur lorsqu'il est un journaliste. Un luxe de détails qui est fourni dans la relation des événements, un ton très posé, très très concentré, qui aide nous journalistes à rester également de notre côté concentré, à garder la distance qui nous permet de faire bien notre travail. Mais c'est vrai que après 1, 2, 3, 10, 20 témoignages, il y a un effet cumulatif, il y a un effet boule de neige. Et c'est vrai qu'il y a des quartiers qui avaient été très, très, très sérieusement touchés, avec des destructions à perte de vue, avec des gens qui racontaient des mitraillages, des exécutions sommaires, des bombardements. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on peut toucher ses limites et on éprouve assez rapidement le besoin de s'écarter un peu pour reprendre un peu son souffle.
Aude Markovic, Benjamin Barthes en direct de Tel Aviv et de Ramallah. Vous avez couvert ce conflit. Vous allez couvrir et vous avez commencé à couvrir la campagne électorale en Israël. Vous allez couvrir les élections demain. Il nous reste quelques minutes. Comment est-ce que ces élections-là sont vécues en Israël, Aude Markovic? La préparation de ces élections-là.
Donc effectivement, donc demain, ce sont les élections législatives qui vont aussi conduire par conséquent à l'élection du nouveau Premier ministre israélien. La campagne a démarré juste après la guerre à Gaza. C'est une campagne assez fade, assez... C'est pas les élections de la joie, hein. C'est plutôt, je sais pas, les élections de l'amertume peut-être, avec beaucoup de problématiques de sécurité. Donc, il faut voir que côté israélien, cette impression de vivre dans un pays c'est un sentiment très profond, dans une terre assiégée de toutes parts. Au nord, il y a le Hezbollah qui menace, au sud, il y a le Hamas, l'Iran pas très loin. Et en plus de ça, alors, il est apparu un nouveau personnage de cette bataille électorale, c'est Avigdor Lieberman, qui est donc un politicien d'extrême droite et qui fait campagne avec son cheval de bataille. Ce sont les Arabes israéliens, c'est-à-dire les 20% de la population en Israël qui sont arabes et qu'il considère comme l'ennemi de l'intérieur, donc à qui il demande une plus grande loyauté envers l'État d'Israël. Il leur reproche de ne pas avoir soutenu la guerre, il leur reproche leur loyauté envers Israël. Donc on a les personnages clés de la campagne, c'est Benjamin Netanyahou en première position selon les sondages, qui est donc à droite avec le Likoud, Tzipi Livni, centre-droite avec Kadima, Ehud Barak, travailliste, donc gauche, et puis Avigdor Lieberman, extrême-droite. Et donc tout ce que nous indiquent pour l'instant les sondages et le sentiment général, c'est qu'il y aura très certainement un virage à droite du gouvernement israélien après ces élections. Il y a d'autres éléments assez intéressants, assez nouveaux. C'est la perte de important dans les sondages de voix pour le Parti travailliste. Le Parti travailliste, c'est quand même le premier parti en Israël. C'est celui qui a créé l'État d'Israël. C'est celui de David Ben-Gurion et Yitzhak Rabin, et ce parti qui risque de se retrouver derrière l'extrême droite de Avigdor Lieberman. Il y a aussi, on parle aussi d'une scission de plus en plus importante entre les laïcs et les religieux. Avigdor Lieberman est un laïc, et les religieux, comme un parti ultra-orthodoxe du Chass, qui l'a qualifié il y a pas plus tard que hier de Satan, et que les électeurs qui allaient voter Lieberman allaient voter pour Satan. Donc tout ça fait une campagne assez assez négative, en fait. Il n'y a pas tellement de sujets qui donnent envie de pousser les gens. Et encore un détail très important, c'est que 25% d'électeurs seraient encore indécis, et ça, c'est le plus fort pourcentage d'indécision avant une élection en Israël.
Et du côté de Ramallah, du côté de la Cisjordanie, comment est-ce que les gens, les Palestiniens, se préparent au résultat de cette élection qui pourrait voir le parti d'extrême droite de Lieberman arrivé en deuxième position?
Je pense que le désintérêt est complet. Il y a véritablement un désintérêt, une ignorance volontaire de la situation politique en Israël, qui provient d'un constat très simple. Hein. Les Palestiniens ont expérimenté un gouvernement à dominante travailliste entre 1999 et 2001, c'était Ehud Barak. Ils ont goûté au Likoud entre 2001 et 2006, c'était Ariel Sharon. Ils ont eu droit à Kadima, qui est le parti de Ehud Olmert entre 2006 et 2009. Et de ces trois partis, les Palestiniens seraient bien en peine de dire quelles sont les différences. Il y a, du point de vue palestinien, une ressemblance quasi intégrale entre ces trois grands partis qui sont entre le centre-droit, la droite et le centre-gauche. Et du coup, ils se désintéressent complètement du scrutin. Ce qui fait la une ces derniers temps et aujourd'hui même des journaux palestiniens, ce n'est pas du tout l'échéance électorale israélienne. C'est plutôt la routine de l'occupation, tous ces événements qui ne font pas véritablement la une dans les pays occidentaux, qui ne la font pas du tout en Israël, mais qui pour les Palestiniens représentent un espèce de tissu de micro-événements qui pourrait paraître pour un observateur extérieur assez insignifiant, mais qui pour les Palestiniens sont extrêmement signifiants. Et ces micro-événements, c'est autant l'armée qui intervient dans un petit village et qui va arrêter 10 personnes durant la nuit, c'est encore une fois l'armée israélienne qui va saisir une petite parcelle de terre d'un villageois au nord de la Cisjordanie. Ça peut être également une petite intervention de l'armée qui se finit très mal avec un enfant qui sera très blessé très sérieusement par une balle en caoutchouc, etc. Et tous ces événements, en fait, préoccupent beaucoup plus les Palestiniens que la dernière ligne droite en vue des élections israéliennes.
Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de résignation, qu'ils n'attendent plus rien, notamment de la classe politique israélienne ?
Je crois qu'il y a véritablement un tournant qui est en train de se dessiner, qui a été... la guerre de Gaza en a été le déclencheur et le catalyseur, mais il se nourrit évidemment de tout ce que je venais de dire, c'est-à-dire le statu quo, le surplace intégral à la fois dans les négociations de paix et puis sur le terrain. Alors là, pour le coup, sur le terrain, c'est pas le surplace, c'est plutôt l'accroissement, l'accélération de toutes les stigmates de l'occupation, c'est-à-dire les arrestations, c'est-à-dire la colonisation, c'est-à-dire le mur. Et donc les Palestiniens en tirent effectivement un fatalisme intégrale, et de plus en plus on entend dans les cercles intellectuels, dans les cercles du pouvoir dans les territoires occupés, la nécessité de réfléchir à autre chose. Alors cette autre chose, ça pourrait être, selon certains Palestiniens, la dissolution de l'autorité palestinienne. Ça pourrait être également un changement du paradigme, c'est-à-dire que depuis 20 ans, les Palestiniens réclament deux États pour deux peuples. De plus en plus de voix, désormais, dans les territoires occupés, prônent le retour à ce qu'on appelle l'État binational, c'est-à-dire un seul État pour les Juifs, les musulmans, les chrétiens. Donc il y a une effervescence intellectuelle qui est de plus en plus alimentée par cette situation de désespoir complet à laquelle sont confrontés les Palestiniens.
Merci beaucoup.
Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui...
20 secondes, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Pardon.
On arrive presque au terme. Allez-y.
Non, je trouve intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris comme ça du côté israélien, qui, effectivement, du fait de la peu de connaissances du quotidien palestinien pour les Israéliens, c'est voilà, on s'est retiré de Gaza en 2005 et les roquettes ont continué. Donc, si on se retire de la Cisjordanie demain, les roquettes vont arriver sur Tel Aviv. Et c'est ça, en fait, qui fait tout le ciment de la politique israélienne aujourd'hui. C'est la menace extérieure, encore et toujours, et la peur d'où qu'elles viennent, les roquettes, la bombe atomique iranienne. Et c'est ça qui fait le quotidien des Israéliens.
Merci beaucoup, Aude Markovitch, Benjamin Barthes, d'avoir été en direct avec nous de Tel Aviv et de Ramallah. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite dans votre travail. On aura l'occasion, bien évidemment, de vous entendre tout au long de la journée de demain et ensuite à l'occasion des élections donc israéliennes. Voilà, nous, on se retrouve avec Anne Brunswick, bien sûr, demain pour la suite de ces reportages. Cyril Desprez, vous souhaite un excellent après-midi. Il va être 16h à Taïbé et 15h tout juste sur la première.